Pour bien terminer cette émission, nous allons rencontrer un arbologue. Mais qu'est-ce donc ? Pour le savoir, il nous faut partir en forêt avec notre reportrice Jeanne Blanchard qui a rencontré Erwan Kavarek, arboriste grimpeur, et nous explique en quoi consiste son métier.
Eh ben, c'est un métier qui consiste tout simplement à entretenir les arbres. C'est des soins, souvent par la taille. La taille ou l'abattage d'arbres, en fait, il y a une formation de bûcheron qui est inclus dans cette formation d'arboriste grimpeur. Avant de grimper dans un arbre, on doit s'assurer de connaître les outils nécessaires à l'appréhender, dont la tronçonneuse est un des outils principaux. L'arboriste grimpeur soigne aussi. Depuis quelques années, il y a des techniques de perfusion. On peut perfuser un arbre pour lui injecter des produits, des huiles essentielles pour aider son système immunitaire.
Arboriste grimpeur, en quoi l'action humaine elle est nécessaire ? Est-ce que la nature elle se débrouille pas mieux toute seule ?
Ben, c'est un métier qui s'est développé dans un premier temps par rapport à la. Il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect sécuritaire et l'aspect ornemental. Et c'est cette deuxième facette qui a fait exploser le métier, on va dire, avec une adaptation du matériel, des harnais, des cordes, des sécateurs, des scies, qui nous permettent d'accéder dans toutes les parties d'un arbre, pour le rendre beau, pour le mettre en valeur, et l'aspect sécuritaire pour préserver son environnement, les voitures, les biens matériels, humains. Pour toutes ces raisons, des fois, il est nécessaire d'intervenir. La nature se débrouille très bien sans nous, et j'en suis intimement convaincu. Sauf qu'aujourd'hui, on fait des routes, on fait des maisons, il y a l'étalement urbain, il y a plein de choses. L'être humain est en train de s'étaler sur Terre et de gagner sur son environnement. Et du coup, les arbres se retrouvent confrontés à des nouveaux contextes, des nouveaux courants d'air, des nouvelles lumières, des axes filaires, routiers, etc. Et donc, on a besoin de les aider, de les accompagner. Et le métier d'arboriste grimpeur répond à pas mal de ces attentes.
Ouais, ça. Oh là, regarde les lumières là. Là, on change d'écosystème, c'est plus pareil, tu vois. Là, on arrive dans une parcelle de résineux. Il y a des pins, il y a des sapins. C'est plus acide. Il y a des fougères, on le voit avec la calune, là, il y a des bouleaux. Donc en fait, il y a toute une végétation bio-indicatrice, on appelle ça, qui nous permet de savoir que le sol est acide, parce que ces plantes-là poussent en milieu acide. Et puis dans les plus grandes forêts, c'est plus visible, là, c'est pas très palpable, parce que c'est un îlot, en fait, on voit que de nouveau là-bas, c'est vert. Mais là, il y a un îlot de résineux. Quand les parcelles sont plus grandes, on change. On sent l'atmosphère changer. C'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes odeurs. Du coup, c'est intéressant de faire des longues balades de plusieurs heures en forêt, comme ça, quand on change d'îlot et de parcelle, parce que on perçoit les différentes ambiances, en fait. Il y a des familles différentes, des couleurs différentes.
Vos débuts en tant qu'arboriste grimpeur, ils n'ont pas forcément été faciles pour vous ?
Non. Non, parce que déjà il y a l'aspect physique. On découvre des muscles dans son corps. Le fait de grimper dans un arbre, c'est très physique en fait comme métier. Donc si on n'a pas une alimentation et une hygiène de vie adaptée, on peut vite renoncer ou développer des souffrances physiques. Moi, dans mon cas, ça a plus été l'aspect psychologique et émotionnel. Parce que beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé n'avaient pas cette conscience aussi poussée. Beaucoup d'arboristes grimpeurs savent qu'on travaille sur du vivant. Mais de là à intégrer les élémentaux ou ce qu'on appelle le petit peuple, c'est une fibre ou une intuition que j'avais très jeune. Et ça m'a coûté cher parce que c'est pas du tout considéré pour l'instant en Occident. Enfin, peu, trop peu à mon goût. Et donc, on s'est souvent moqué de moi, quoi. mais qu'est-ce qu'il a fumé ? Enfin, c'est pas possible, tu peux... Et donc, ouais, il y avait un aspect brutal dans le début de ma carrière où je comprenais pas pourquoi on puisse faire ce métier sans cette conscience-là, en fait. Il y avait des incompréhensions, ouais, que je cherche encore à étudier. À, ouais.
Tiens, on avancerait un petit peu.
Mm-hmm. Ouais.
On nous invite à nous enfoncer dans la forêt. Tiens, on peut même aller... Oh, il est beau! Oh. Yes!
Est-ce que vous pourriez nous parler d'une expérience de soins que vous avez fait sur un arbre?
J'ai eu la chance déjà d'avoir des contextes très très différents. Abattre un arbre malade, ça peut être considéré comme un soin. Un arbre malade ou disharmonieux, ou qui a été peut-être massacré par des lignes électriques ou des interventions humaines aussi. Dans certains cas, il y a des arbres qui demandent à être enlevés, qu'il est nécessaire d'enlever du paysage. C'est une forme de soin. C'est une forme de soin pour la terre. Pour un arbre qu'on va considérer qu'il est important de garder dans son environnement, il y a des techniques d'aubanage, par exemple, qui permettent de retenir des branches trop lourdes ou avec des faux mécaniques. La mise en place d'un auban va permettre de structurer l'arbre pour l'aider à rester dans le temps. Après une taille d'allègement ou après une tempête, par exemple, depuis quelques années, il y a des coups de vent très violents en pleine feuillaison. S'il y a une partie du houppier de l'arbre qui est vrillée, on va pas laisser les branches en suspens. Si c'est au-dessus d'une route ou d'un... Voilà, il faut grimper dedans, faut aller s'ancrer, s'assurer, et puis couper ces branches-là, réduire le nombre de plaies. Après, moi, derrière, j'utilise des baumes cicatrisants, enfin, je travaille avec un apiculteur qui fait un baume à base d'huile, de propolis, etc., plein de minéraux, en fait, pour reminéraliser une plaie. Ce baume est hydrofuge, donc ça permet à la plaie aussi d'éviter de s'infecter trop vite.
Ces dernières années, je me suis rendu compte qu'on prenait la nature, on lui a beaucoup, beaucoup pris. On prend son bois, on prend ses parcelles, on prend sa terre, on construit, on exporte, on est beaucoup dans le prendre. Mais on donne pas beaucoup.
S'intéresser aux arbres, c'est donc aussi repenser la société.
Oui, oui, oui. Ma vision, c'est une question et une aparté intéressante parce que depuis quelques années, l'arbologie, je m'amuse à faire le miroir entre une société saine, la société dont beaucoup rêvent, et la société d'aujourd'hui, qui est pas très saine dans différents aspects. En fait, mon miroir, l'image qui m'intéresse, c'est si on prend l'exemple des peuples natifs qui étaient pieds nus, bien ancré, et ce qui est intéressant dans ces sociétés-là, c'est que toutes les générations étaient un peu mélangées. Et surtout, on avait conscience que les anciens, avec leur grande expérience, pouvaient enseigner les adultes et puis les plus jeunes. C'est un peu à l'image d'une forêt primaire, d'ailleurs, ces peuples-là. Tout le monde est mélangé, il y a un écosystème riche, il y a une grande canopée, il y a une densité. Les lois sont peut-être un peu plus strictes. On pourrait croire que non, mais il y a beaucoup de lois qui régissent un écosystème aussi complet. Mais il y a une harmonie aussi. Il y a vraiment une harmonie forte. Alors que si on prend une société d'hommes modernes qui ne va pas être pieds nus, les jeunes vont être à l'école, ceux qui peuvent travailler travaillent, et les anciens, c'est l'EHPAD ou enfin voilà. Il y a des cloisonnements dans une société moderne qui ne sont pas du tout chez les peuples natifs, que ce soit les aborigènes, les amérindiens. Et cette forêt moderne, elle nous ressemble un peu, parce que une forêt plantée par l'homme aujourd'hui, ça va être beaucoup la monoculture. Il y a une seule espèce. On plante une espèce, on vide, on va viser le rendement, la productivité pour le bois, le papier, etc. Enfin, l'agroforesterie moderne n'inclut pas justement ces écosystèmes riches pour avoir une production plus rapide. Et du coup, je fais vraiment le miroir entre les humains et les arbres. L'ancrage et la connexion inter-âge, qui est vraiment la force d'une forêt primaire, alors que dans la forêt moderne, ils sont tout seuls, ils sont isolés, ils sont plus vite malades. Je parle des arbres. Mais voilà, il y a des clins d'œil, quoi. Il y a des... Mon rêve, ce serait d'inviter un petit peu les êtres humains d'aujourd'hui à prendre exemple sur une forêt primaire, une forêt saine, où tout le monde est, où il y a un brassage, justement.
Ouais. Où il y a une mixité, mais aussi où il y a de la communication entre les arbres.
Exactement, exactement. Dans une forêt primaire, on va retrouver justement cette communication très forte. Alors, comme le dit Peter Volleben dans ses super travaux, c'est vraiment génial hein, ce qu'il a trouvé, c'est la communication racinaire. Par le biais de la mycorhize, donc il y a une symbiose entre les racines de l'arbre et un champignon. Je crois qu'il parle du Wood Wide Web. Donc en fait, il y a des réseaux filamentaires sous nos pieds dans une forêt primaire qui sont très forts, qui sont très actifs et qui permettent aux arbres de communiquer très vite. Bon, il n'y a pas que ça, hein, y a les travaux de Stéphane Boitard aussi qui parle du champ morphique. Donc les arbres ont un autre réseau de communication qui lui est aérien et non visible. Mais effectivement, dans une forêt primaire, ça va vite, ça communique vite et il y a une force. Alors que dans la forêt moderne, la communication elle est lente, les connexions racinaires sont moins là, les parasites ont plus de force et peuvent gagner plus vite du terrain. Donc voilà, là encore, on peut faire le clin d'œil avec ce qui nous arrive peut-être à nous, les humains, en ce moment. Si on s'ancrait un peu plus et qu'on communiquait mieux, on appréhendrait peut-être les crises, qu'elles soient sanitaires ou économiques, d'une autre manière.
L'homme qui parle avec les arbres, se reconnecter à la nature, c'est le titre du livre qu'Erwan Karavarek a écrit avec Gwenaël Touroud et c'est paru chez Sully. Et voilà, c'est une belle façon de terminer ce LEM. Merci de l'avoir suivi.